au réseau Cogeco. Cogeco. Jusqu'à 15h, vous écoutez Mon Grain PM.
C'est l'été, il fait chaud, il fait beau, on ne va pas ailleurs, on passe les vacances chez nous. Il y a des ventes de piscines qui ont augmenté de façon exponentielle. Il faut se rafraîchir, on plonge, on se baigne et arrive le drame, c'est-à-dire des pertes de vie dans les piscines privées ou ailleurs dans des plans d'eau. La réalité, c'est qu'il y a plus de noyades cette année qu'il y en a eu par les années passées, ce qui est épouvantable. Mais il y a autre chose également. Il y a des dommages collatéraux importants. Il y a des gens qui disent « Ah, je fais une bombe! Ah, je plonge! » Et ils sont maintenant quadriplégiques. Le docteur Éric Piette est avec nous. C'est le chef d'équipe de traumatologie et urgentologue au CIUS du nord de l'île de Montréal. Alors oui, c'est triste les noyades, docteur Piette, mais vous avez des cas de tétraplégie importants. Il y en a plus là maintenant. Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous-même, M. Mongrain?
Très bien, merci. Donc, parlez-moi de ces cas dont on ne parle jamais, parce qu'on parle des noyades, mais il y a des cas tout à fait dramatiques de gens qui ne remarcheront plus.
Bien, en effet, comme vous le dites, là, c'est des cas vraiment dramatiques. En fait, c'est des vies qui sont littéralement brisées. Juste depuis le début du mois de juillet, on a 5 jeunes adultes là, qui sont tétraplégiques suite à des plongeons dans des plans d'eau. Donc, c'est des jeunes qui ont fait des plongeons ou des pirouettes et qui se sont cognés la tête dans le fond de l'eau et qui ont eu une flexion importante au niveau du cou et qui se sont fracturés les colonnes cervicales avec une compression ou bien une section de la moelle épinière derrière. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des dommages qui sont irréversibles. Et donc, ces jeunes-là se retrouvent avec, comme vous dites, une tétraplégie, c'est-à-dire une paralysie des 4 membres et toutes les complications qui s'ensuivent.
Bon, parce que les complications, elles seront nombreuses. D'abord, moralement, d'accepter de voir que nous sommes immobilisés et que nous sommes une tête, parce que rien ne fonctionne à partir des épaules, si ce n'est que les poumons, oui, là, mais pour le reste, ça ne fonctionne pas du tout, là.
Exactement. Donc, plusieurs de ces patients-là vont être littéralement cloués à un lit pendant plusieurs semaines en attendant de pouvoir commencer la réadaptation, apprendre éventuellement à se servir d'un fauteuil roulant s'ils sont capables de se servir d'un fauteuil roulant. Mais comme vous le dites, selon le niveau de la lésion au point de vue de la colonne cervicale, on peut être paralysé même en haut des épaules. Il y en a certains, si la fracture est plus basse, ils vont être capables de se servir de leurs épaules, de leurs coudes, mais pas nécessairement de leurs mains. Mais peu importe le niveau de la lésion, c'est vraiment des difficultés après ça pour le restant de leur vie qui s'ensuivent, avec des gestes banals comme se brosser les dents deviennent un défi. Là,
et tout l'entourage.
Que la vie en est changée.
Et tout l'environnement, c'est ça qui change, parce qu'on a besoin de soins, on a besoin d'aide, on a besoin d'encadrement, on a besoin de soutien, on a besoin de faire attention à soi parce que son corps dépérit aussi, la masse musculaire tombe, etc., etc. Tout ça se produit, là.
Exactement.
Dites-moi, je ne veux pas vous amener dans la science-fiction, mais l'avancement scientifique, on avait entendu parler de la possibilité de voir des réparations de la moelle épinière. Est-ce que c'est toujours en plan, ça?
Ben écoutez, je vous dirais que je ne suis pas au fait de la littérature la plus récente, mais pour l'instant, il n'y a aucune avancée scientifique qui permet, dans un horizon rapproché, d'obtenir justement de la guérison, de la réparation de la moelle épinière. Ce qui est possible de faire chez les patients qui ont des lésions, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, des fractures cervicales vont engendrer des hématomes, soit l'équivalent d'une accumulation de sang ou un gros bleu au point de vue de la moelle épinière dans le canal rachidien qui est très étroit. Donc, si on les opère relativement rapidement et qu'on est capable de retirer finalement cette compression-là de la moelle épinière, certains des dommages pourraient être réversibles. Mais cependant, dans les cas de patients qui ont des fractures ou des luxations, c'est-à-dire que la colonne, finalement, les vertèbres ont tout simplement débarqué les unes des autres, quand la moelle elle est comprimée ou sectionnée, ça, il n'y a aucune réparation qui est envisageable là, sur le court ou même sur le moyen et le plus long terme pour l'instant.
Donc, c'est de la témérité mêlée avec de l'imprudence et de, je sais pas moi, un genre de candeur, de dire « Ah, je plonge ici, moi, ça va être le fun », puis c'est terminé, là.
Bien, il y a aussi peut-être, pas nécessairement dire de l'insouciance, mais peut-être un peu d'ignorance par rapport à certaines choses. La majorité des blessures médulaires cervicales hautes arrivent chez des jeunes hommes de moins de 30 ans. Des jeunes hommes de moins de 30 ans souvent ont une espèce de sentiment d'invincibilité, mais aussi un orgueil qui fait en sorte que quand ils se font mettre au défi par des amis, ils vont avoir tendance à faire plus de folie. Mais on peut très bien imaginer que... On peut très bien imaginer aussi quelqu'un qui voit, qui est dans un lac, qui est sur un quai dans un lac qu'il ne connaît pas, et qui se dit, bon, ben le quai est au moins 6 pieds de haut, il doit avoir assez profond d'eau en dessous, mais qui n'est pas au courant qu'il y a une roche sous le plan d'eau juste en dessous et qui plonge la tête la première sur la roche et se fait des fractures justement catastrophiques au niveau cervical.
Quand on parle de ces gestes-là, on en parle aujourd'hui pour l'eau, les plans d'eau, le plongeon, les piscines. Est-ce qu'il y a d'autres loisirs qui entraînent ces troubles-là de tétraplégie? Je pense, moi, à toutes les fois que je vois quelqu'un, je ne sais pas, moi, faire de la planche à roulettes, là, ou ces choses-là, la trottinette, est-ce qu'on peut, en tombant véritablement, ou s'il faut vraiment un coup important et imposant?
Donc, ça va dépendre, bien sûr, de la vélocité de la chute, mais vous pouvez comprendre que d'autres sports, comme tout simplement la trampoline, hein, les gens qui font de la trampoline, qui font une mauvaise chute en trampoline avec une flexion ou une extension importante au niveau du cou, on voit ça chez les jeunes, donc ça, c'est des causes, en effet, de tétraplégie aussi. Des gens qui feraient de l'escalade pourraient très bien tomber, mal tomber, puis avoir une importante flexion au niveau du cou ou de d'autres vertèbres de la colonne vertébrale. Mais chez des personnes plus âgées ou des personnes moins chanceuses, juste de tomber de sa hauteur, c'est suffisant. On trébuche dans le trottoir, on trébuche dans sa pantoufle, on tombe le menton au sol, puis la tête s'en va par en arrière. Puis plusieurs de nos personnes âgées vont avoir justement moins de flexibilité au point de vue de la colonne cervicale, ce qui fait qu'au lieu de plier, elle va casser avec les lésions qui s'en suivent. Donc, juste des simples chutes de la hauteur peuvent engendrer des lésions cervicales catastrophiques aussi.
Quand je vois de ces protecteurs pour le cou que l'on voit chez les jeunes qui jouent au hockey, là, les joueurs amateurs, on le voit pas chez les professionnels, mais ces protecteurs de cou-là qui empêchent justement le whiplash là, du cou, là, que ça aille vers l'arrière, ça a une efficacité. Est-ce que ça devrait pas être obligatoire?
Les protecteurs du cou dont vous parlez, j'ai plutôt l'impression que c'est pour protéger l'avant du cou, le larynx, des rondelles et des coups de bâton là, pour éviter justement des lacérations importantes au point de vue des vaisseaux du cou ou du larynx qui est, bon, chez les garçons, on la voit, là, c'est la pomme d'Adam, qui engendre finalement une compression au point de vue des voies respiratoires puis des troubles importants à respirer après. Mais je dois dire que je suis pas un joueur de hockey personnellement, donc je suis pas au fait là, d'un équipement protecteur sur l'arrière du cou là, qui empêcherait une hyperextension là, chez les joueurs de hockey.
J'ai une question pour votre quotidien d'urgentologue. Est-ce que c'est vous qui devez annoncer à celui que vous recevez qu'il ne marchera plus?
Bien, je vous dirais que plusieurs de ces patients-là ne comprennent pas l'ampleur de ce qui leur est arrivé. Avant d'avoir, il y a toujours une période pendant laquelle il peut y avoir un certain retour de fonction, jamais une guérison complète. Donc, on n'est jamais capable de leur dire précisément, bon, ben aujourd'hui, tu es tétraplégique, tu ne marcheras plus jamais, parce qu'il y a quand même un certain, là, un faible taux de récupération. L'autre chose, c'est que la majorité de ces patients-là, quand on les a dans notre salle d'urgence, ils sont pas prêts non plus à accepter ce diagnostic-là. Donc, on les bombarde pas non plus avec toute cette information-là dès le départ. Il faut amener ça petit à petit parce que, comme vous l'avez dit, il y a des répercussions psychologiques là, catastrophiques à tout ça. Là. Ouais, déjà, pour vos auditeurs qui auront passé quelques heures couchés sur le dos avec un collet cervical parce qu'ils ont eu un accident de voiture et qu'on les empêche de bouger, c'est difficilement tolérable. Imaginez une vie après ou imaginez plusieurs semaines, plusieurs mois cloués à votre lit, incapables de bouger. Là. Puis, c'est parce que la panique, bon, il y en a qui, après des accidents d'auto, qui vont être sur le dos, on les empêche de bouger, mais ils sont quand même capables de bouger leurs jambes, bouger leurs bras, ils sentent leurs jambes, ils sentent leurs bras. Mais les patients qui arrivent tétraplégiques ne sentent plus leurs bras, ne sentent plus leurs jambes, ils sont incapables de bouger, donc ils ne comprennent pas vraiment non plus ce qui leur arrive. Donc, c'est de prendre conscience de tout ça, là, c'est une grosse charge pour eux. Donc, oui, c'est certain qu'on est capable d'engendrer une discussion avec nos patients lorsqu'on les reçoit initialement, mais la confirmation du diagnostic, puis la conclusion du diagnostic et de l'annonce de la mauvaise nouvelle va se faire par nos équipes traitantes par la suite, là, spécialisées dans le sujet.
Ah, OK, d'accord. Donc, vous ne les revoyez pas nécessairement. Vous êtes en urgence. Alors, par la suite, évidemment, l'équipe de soutien médical qui accompagnera l'individu sera chargée de faire le travail, j'allais dire, pédagogique au point de vue de la progression de l'annonce du cas.
Ben, c'est ça. Souvent, ils arrivent avec d'autres lésions qu'il faut adresser aussi. Puis donc l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, du centre du CIUS du nord de l'île de Montréal, on est le centre d'expertise de l'ouest du Québec pour les
Oui,
blessés
en
médulaires.
traumato, oui.
Ce qui fait que, ben, pour la traumato, mais aussi pour tous les blessés médulaires de
OK.
l'ouest du Québec. Ce qui fait qu'on a des équipes multidisciplinaires spécialisées vraiment là, dans la prise en charge de ces patients-là, puis de l'accompagnement psychologique qui va avec.
Sûrement
Mais
parce
c'est
que
certain.
ça prend une
Oui.
grosse résilience, hein, j'ai l'impression.
C'est oui, tout à fait.
C'est incroyable. Merci beaucoup, Dr. Éric Piette, chef d'équipe en traumatologie et urgentologue au CIUS du nord de l'île de Montréal. Merci de nous informer ainsi. J'ai l'impression que ça peut ouvrir les yeux à plusieurs jeunes téméraires qui sont en surplus de testostérone. Ben oui, il n'y a rien là, je vais le faire. Merci, docteur.
Merci de m'avoir reçu.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Alors, s'il vous plaît, prudence, prévention, c'est pas la pensée magique, ça peut vous arriver à vous aussi. On s'arrête pour une pause.